Sto. Ah!
Métro. Geek et Tunker, Caroline.
Bonjour à tous et bienvenue dans Anti-Histo-Amétropique, votre émission d'histoire locale ou lointaine sur Radio Vassivière. Alors aujourd'hui, on va se lancer dans une nouvelle série d'épisodes, une série qui sera consacrée aux guerres de religion à Limoges. Alors j'ai décidé de vous proposer un article sur les guerres de religion à Limoges, donc comment elles se sont passées. Vient ensuite le temps de la rupture et du regain de violence en 1588 et 1589. La rupture de la paix civile se produit en 1588 et 1589. Le 24 juin 1588, des ligueurs de Limoges, épaulés par des soldats tirés des troupes ultra-catholiques qui tiennent la campagne environnante, se présentent devant la ville. Un mois après les barricades parisiennes, ils viennent soutenir Edme de Hautefort, destitué par Henri III, et veulent faire pression sur l'intendant Charles Turcan, chargé d'appliquer la sanction. L'émeute fut vite dissipée, et les ligueurs ne reparaissent que le 1er mai 1589, afin de libérer trois de leurs retenus dans la prison du Présidial. Une fois encore, ils butent sur la vigilance des Limougeaux. Les deux attaques étaient de faible ampleur, improvisées, et le sang ne coula pas. Cependant, à deux reprises, les combats avaient mis aux prises des habitants de Limoges, signant la fin de la cohésion citadine. La coexistence pacifique des années 1564-1588 s'effilochait avant de s'effondrer en octobre 1589. Le soulèvement du dimanche 15 octobre fut double. Une première émeute éclata en début d'après-midi dans la cité. Très organisée, contrôlée par les hommes de l'évêque, elle prit le contrôle de l'agglomération en quelques instants et sans coup férir. La seconde émotion, concomitante, se développa dans le château. Place Saint-Michel-des-Lions, elle mit les ligueurs aux prises avec les autorités de la ville. Des coups de feu claquèrent. Le consul Étienne Pinchot et un soldat de la garde consulaire furent mortellement blessés. Les habitants érigèrent des barricades dans la ville, autour de l'église Saint-Michel-des-Lions tenue par les insurgés, tandis que les royaux restaient maîtres de la maison de ville, de l'église Saint-Pierre de Kerrois et des principales portes de la ville, sauf celle des arènes aux mains de l'adversaire. À la nuit tombante, les ligueurs avaient échoué à s'emparer par sursis du château. Dès le lendemain, ils doutaient de l'issue de leur entreprise. La confusion s'installa dans leur rang et le mardi, quatre ligueurs de premier plan, l'aubergiste Léonard Delose, Pierre de la Roche, dit le capitaine Vouzel, le magistrat Martial Petiot et Claude Roir, greffier au Présidial, furent capturés et immédiatement pendus. Dès lors, les ligueurs cherchèrent à gagner la cité et à résister dans l'attente des secours promis par le vicomte de Pompadour, chef des troupes de la Sainte-Union dans le Limousin. Mais ce furent les soldats des ducs de Ventadour et d'Épernon qui se présentèrent les premiers le 22 et 23 octobre. L'évêque prit la fuite, la cité fut pillée et les royaux procédèrent à des arrestations massives. 187 personnes, presque exclusivement limougeaudes, suspectées d'avoir participé aux échauffourées, furent inquiétées. 144 firent l'objet de poursuites alors que l'on dénombrait 11 blessés et 5 morts. Pourquoi, après avoir évité la Saint-Barthélemy, Limoges fait-elle partie des villes de province qui, comme Angers, Nantes, Rennes, se jeta dans la Ligue? Pour quelle raison la cité et surtout le château basculèrent-ils dans la violence meurtrière? Comment rendre compte de l'échec final de la tentative ligueuse? L'insurrection résulte beaucoup des sollicitations extérieures qui surent trouver des relais locaux. En 1589, la Sainte-Union peut compter sur la présence d'un nouvel appui avec l'évêque Henri de la Martonie. Pierre Rigourdin est client de la maison de Lorraine, comme l'était Edme de Hautefort, décédé en mai 1589, le prélat instigateur du soulèvement. Il le dirigea dans la cité, le confia à quelques amis dans le château. Ceux-ci se recrutèrent dans tous les groupes sociaux avec une surprésentation du milieu élitaire. Les chefs ligueurs sont bourgeois, marchands, officiers de finances et exceptionnellement officiers de justice. Les prêtres sont rares, ce qui écarte à Limoges l'assimilation de la Ligue à une révolution de curés. Le second facteur déclenchant l'émeute découle des perspectives politiques ouvertes par la mort d'Henri III. La couronne doit échoir à Henri de Navarre et les ligueurs combattent cette réalité. À Limoges, ils espèrent rallier les catholiques, révulsés par cette éventualité, d'autant plus facilement qu'un profond discrédit est historiquement attaché au vicomte, qui est Henri de Navarre. En fait, les Limogeaux s'opposèrent majoritairement à ce que le catholicisme fût instrumentalisé par un parti à des fins conquérantes, agressives dans un rapport d'affrontement civil et fratricide. Et comme les autorités urbaines, le consulat et le présidial firent preuve d'une détermination sans faille, les ligueurs durent capituler. Cependant, en dépit de sa brièveté, l'émeute qui est Henri de Navarre. En fait, les Limogeaux s'opposèrent majoritairement à ce que le catholicisme fût instrumentalisé par un parti à des fins conquérantes, agressives dans un rapport d'affrontement civil et fratricide. Et comme les autorités urbaines, le consulat et le présidial firent preuve d'une détermination sans faille, les ligueurs durent capituler. Cependant, en dépit de sa brièveté, l'émeute de 1589 signe la fin d'une époque, l'idéal de solidarité citadine, fondé sur un socle accordant la première place aux choix politiques à voler en éclats.
Yeah. Yeah, yeah. Pour être honnête, je sais pas faire autrement. Ma haine n'a pas su cicatriser. La musique l'aimait jusqu'à ce que je sois dedans. Contre Abéreux veulent me faire signer. Personne t'aimera comme moi, m'a dit maman. Si ce n'est le joint que je vais rouler. Il me fera oublier mes chances de ce monde. Le diable et son fils est bien roulé. Très loin des maisons de disques, mais près de mon public avisé. Très loin des ventes et des chiffres, mais près de la musicalité. Regarde au-dessus, il n'y a plus de nuages. La pluie ne risque pas de tomber. Regarde mon cœur, il n'a plus de grillage. Mais personne ne risque d'y entrer. Fantasme, fantasme, tout est vide.
Après le soulèvement et le bannissement de ses auteurs, accusés de trahison et de conspiration contre la ville de Limoges, liberté municipale. En fait, l'intervention d'Henri IV est d'abord révélatrice de la faillite des élites citadines, incapables de redéfinir les règles d'un jeu politique pacifié. 1589 a fait imploser l'alliance des bourgeois, des marchands, des officiers qui étaient le fondement social de la bonne ville. Limoges n'a plus de référence politique commune et ne représente plus pour l'ensemble de ses membres l'horizon politique à privilégier. La volonté de dégager et de pratiquer une culture politique citadine qui avait protégé Limoges des troubles se retrouve avec des modalités proches dans d'autres villes comme Chalon-sur-Marne. Parfois, cette politique a un aspect plus institutionnalisé. Lorsque les villes, prenant en compte l'état équilibré des communautés catholiques et réformées, organisent des consulats mixtes. Le but de cette parité est évidemment de dépasser les clivages religieux et de produire une culture de tolérance confessionnelle débouchant sur des valeurs partagées comme le civisme communal et le patriotisme citadin. À Limoges, cette construction politique a résisté à la Saint-Barthélemy, mais non à la Ligue. L'éruption du religieux est à l'évidence provoquée par des facteurs extérieurs, inédits mais pas seulement. Au cours de la décennie 1580, les esprits ont peu à peu délaissé les valeurs politiques pour des valeurs confessionnelles qui sous-tendent l'émeute de 1589. Cependant, la substitution de l'exigence religieuse à l'impératif politique était incomplète et les tenants de la cohabitation pacifique, entre confessions contraires, conservèrent le contrôle de la ville. Il fut pourtant impossible de reprendre le fil de l'histoire, l'idéal politique urbain ayant montré ses limites au moment où, d'autre part, émergeait de manière de plus en plus sensible la culture de l'État. 1589-1602 est une décennie durant laquelle le transfert entre une identité urbaine dévalorisée et une culture politique étatique s'opère douloureusement. Le coup de Sa Majesté, d'Henri IV, en 1602, n'est pas prédateur des libertés municipales. Il est un réaménagement des règles de vie politique imposées à une communauté orpheline de son référent politique. La ville est partagée devant la lente affirmation de l'État Léviathan. Les violences de 1589 apparaissent alors dans toute leur complexité, à la fois lutte confessionnelle et conflit politique, la première ayant un moment occulté la seconde et ouvert la boîte de Pandore d'une après-guerre de religion fort agitée à Limoges. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire vos retours sur martin@radiovassiver.com. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve dans 2 semaines.
Ah, mais trop.